Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Il est 23h29, l'after est là jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, Daniel Riolo, Oussem Loussaïef. Paulo Breitner est resté, car le sujet transfert-marque l'intéresse au plus haut point. On va en parler avec Alexandre Herbinet qui a mené l'enquête. Bonsoir.
Salut messieurs.
Salut Alex.
Alors on retrouve tout ça sur rmcsport.fr, évidemment. Un très long papier. Alors déjà, qu'est-ce que transfert-marque pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a encore qui ne connaissent pas. A priori, les auditeurs de l'after sont plutôt...
Je pense que tout le monde connaît.
Nous, déjà, les journalistes, on l'utilise 10 fois par jour à peu près pour vérifier tout et n'importe quoi. C'est la plus grande base de données en libre accès, en accès gratuit du monde du foot. 840 000 joueurs, 80 000 clubs, plus de 1600 compétitions dans 107 pays. Et les autres pays dont les compétitions ne sont pas mises, elles sont là par leur équipe nationale. C'est la plus grande base de données mondiale du foot en accès libre gratuit.
Kevin Diaz est dessus.
Je pense, oui, en effet.
Pour de vrai?
Je pense. Ah oui. Je l'ai pas vérifié là. Là, j'avoue, j'ai pas vérifié s'il y avait la fiche de pied.
Il a dit pour de vrai. Pour la fiche, j'ai peut-être raclé au ping-pong.
Non, mais alors attends, est-ce que les
mais
infos.
Non, mais j'ai dit ça parce que ça fait longtemps que tu jouais.
Est-ce que les infos qui te concernent sur Transfermarkt sont vraies?
Bah écoute, je suis sur ma page tout de suite. 1m82, c'est ça. 37 ans, c'est ça. Ailier gauche, c'est ça. Ils disent aussi que j'ai joué à plusieurs postes, même s'ils ont oublié arrière gauche.
Ils disent pas milieu gauche dans le match de l'after là.
Non, non,
c'est le match où t'as le plus brillé quand même.
Non, ils disent pas.
Mais c'est ce nouveau positionnement que je t'avais trouvé.
Exactement.
Valeur la plus élevée, 450 000 euros.
Allez. Bon.
Ils ont le nom de mon agent et ça, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Et c'est pas moi qui l'aurais donné. Et ça c'est une bonne info.
Ça peut être ton agent qui l'a donné, du coup.
Plus d'agent, mais
c'est souvent les agents qui l'a donné.
Alors justement, maintenant qu'on sait ce que c'est, rentrons dans les détails. Parce que toi, t'es allé fouiller un peu. Tu dis attends, mais finalement, qui fait quoi?
Un nombre de matchs, ils sont bons.
Exactement.
Et là, t'as découvert des trucs très étonnants.
On a pu interroger le fondateur, Matthias Seidel, qui est donc un ancien ingénieur informatique allemand, qui était en fait un fan du Werder Bremen, qui a déménagé à Hambourg dans le début des années 90. Et puis Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, donc il avait du mal à trouver des infos. Il avait du mal à trouver ses infos. Et donc il s'est dit que je vais créer un site en fait pour avoir des infos sur mon club et pour partager avec les autres fans du Werder des infos sur mon club. Et c'est comme ça que ça part en 2000. Et donc depuis, ça s'est ultra développé. Et surtout, on le retrouve. La première chose qui nous a étonné quand on a commencé, on a fait cette enquête avec Clément Chailloux, un autre journaliste du web, c'est déjà l'influence que ça a pour certains présidents, notamment quand on voit Jacques-Henri Hérault qui en 2018 fait une conf de presse de fin de saison et dit: on a acheté pour 120 millions d'euros de joueurs, mais vous en faites pas parce qu'ils valent 200 millions sur Transfermarkt. On se dit que l'influence de Steve, elle est quand même énorme.
Ils ont été cités dans
des rapports de l'UEFA.
Là, t'as pris le mec qui, quand il ouvre la bouche, bim, oh merde, une connerie est tombée.
Le site a été cité dans des rapports de l'UEFA, dans des rapports de l'OL Group annuel aussi. Donc il y a beaucoup des rapports de Porto.
Oui, donc c'est utilisé par les clubs, par les agents, par tout le monde.
Exactement. On a aussi des agents qui nous racontent, notamment plus dans des petits pays. On a des gens qui ont travaillé en Afrique du Sud, en Slovaquie, qui dans le papier expliquent qu'il y a des clubs qui recrutent des gens dans des championnats un peu plus exotiques, on va dire, que les 5 grands championnats européens, et qui les recrutent sur les fiches Transfermarkt. Ce qui voit le mec a mis 32 buts en Slovaquie, c'est intéressant.
Ce qui est intéressant, Alex et Gilbert, c'est que en fait les agents ont des plateformes payantes où ils peuvent voir des séquences de jeux, ils peuvent travailler dessus, faire leur scouting dessus. C'est ça. Mais comme disait Alex, la vraie plus-value de Transfermarkt, c'est que c'est gratuit en fait, t'as l'accès pour tout le monde quoi.
Et par rapport à ce que disait Kevin, ça, le côté d'avoir les agents à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a un agent qui nous expliquait il y a 20 ans, tu voulais contacter un joueur brésilien, c'était la galère absolue, il fallait trouver un contact là-bas, il fallait trouver le mec qui va te mettre en relation. Là tu vas sur Transfermarkt, en 5 minutes c'est plié, tu sais l'agence où il est, le nom de l'agent, tu peux contacter directement. Si l'agent a sa fiche à lui,
compiler autant de joueurs, ils sont combien à Transfermarkt?
Ils sont 50 en temps plein et une soixantaine avec les temps partiels. Donc en effet, ça paraît pour 840 000 joueurs, c'est impossible, complètement dingue. Donc c'est en effet impossible, c'est parce qu'en fait beaucoup de joueurs, notamment des petits championnats, sont mis dans des fourchettes. C'est-à-dire qu'on va pas décider, tiens, tel joueur il vaut 432 000 et l'autre il vaut 436. On va les mettre tous à 450.
On prend le gars qui joue à Žilina en Slovaquie, on dit bon lui il joue là, donc on va le foutre à temps.
Exactement. Il a tel type de joueur, c'est tel type de joueur à peu près. Il a fait tel type de club avant. Il joue dans tel championnat. On a une fourchette à peu près dans laquelle on va pouvoir le mettre.
Donc c'est un peu plus doigt mouillé quoi.
Et un petit peu, ouais. C'est plus pour les joueurs des grands championnats où ça devient intéressant leur méthode de calcul, parce qu'on voit donc que ça, beaucoup de gens du milieu se basent sur leur méthode de calcul, même nous hein, les journalistes dans des papiers on cite tiens il vaut tant sur Transfermarkt, tout ça, c'est comment sont faites ces méthodes de calcul. Il y a pas du tout d'algorithme comme par exemple peut le faire le CIES, l'observatoire du football, qui lui utilise un algorithme. C'est déjà
ça, c'est tellement notre ami Laurent Salvaudon là, de RMC Sport, c'est Laurent Transfermarkt Salvaudon.
Il connaît tout le monde, il sait que Olmo, il savait combien il coûtait avant d'aller à Leipzig, il savait tout.
Et c'est ça, mais en fait, c'est pas leur vrai prix. Mais
est-ce que ça se vérifie?
Et non, 60% d'écart entre les valeurs de Transfermarkt et les transferts réels. Ça, c'est un chiffre qui est
incroyable. 60% d'écart à 1 ou 2 millions près, ou parce que si c'est 20 millions,
c'est la négociation.
Si le mec, si ça part à 22, je dis qu'il a raison.
Oui, c'est la négociation.
Pas abuser non plus.
60% d'écart sur tous les transferts, 34% pour les transferts d'au-dessus de 10 millions d'euros. Donc ça se resserre un peu, c'est plus facile d'avoir les valeurs des mecs qui valent un peu plus cher parce que tu connais tout ça.
Oui, oui.
Donc comment ça se fait? C'est assez étonnant, mais en fait, tout part de forums. Ils ont des forums sur Transfermarkt. Et en fait, après chaque mise de valeur, ils vont te mettre une fiche du joueur sur le forum. Et là, tout le monde peut discuter. C'est-à-dire que même les joueurs peuvent venir discuter de leurs propres valeurs. Ça leur est déjà arrivé que des joueurs se créent des comptes.
Incroyable. Pour qu'ils viennent discuter de leurs propres valeurs. Il coûte un million.
En fait, mais là, tu es en train de nous dire qu'en fait, c'est complètement verrouillé.
Bah, il y a plusieurs niveaux de vérification derrière. Donc, pour finir l'explication, ça, il y a cette partie forum. Il y a des modérateurs du forum qui, donc, travaillent pour Transfermarkt, qui, là, font leur petite tambouille. Ils prennent les arguments qui leur vont bien. Ils disent, bon, bah, ça, c'est légitime, ça, c'est pas légitime. Ils font leur petite tambouille. Ils donnent un peu un ordre d'idée du prix qu'ils donneraient aux joueurs. Et ils remontent ça à des experts Transfermarkt qui, eux, bossent à temps plein pour eux et qui vont donner le prix final. Et il y a au-dessus de tout ça un superviseur global qui va essayer d'avoir toute la cohérence.
Georges Mendes.
Cohérence, c'est-à-dire dans le sens, par exemple, il faut que des joueurs de clubs correspondants aient des valeurs correspondantes. Le fondateur nous expliquait par exemple, en rigolant, puisque c'est une des rivalités aussi, que les joueurs du Werder devaient la somme totale de l'ensemble de l'équipe du Werder devait être au-dessus d'autres équipes dont ils sont rivaux, mais parce qu'ils sont des clubs moins importants en Allemagne. Okay. Et le Bayern en Allemagne aura forcément la valeur totale de ses joueurs la plus grosse. Il y a une cohérence par rapport au club, au statut du club et à sa situation même financière.
Alors Polo, vu qu'on parle d'Allemagne, là, tu voulais intervenir sur le dossier.
Il y a plusieurs choses qui ont été dites qui sont à la fois exactes et pas complètement. Moi, Mathias Seidel, je l'ai rencontré il y a quelques années parce que on s'est rencontrés pour savoir s'il fallait développer Transfermarkt en France, en fait. Donc la question des calculs est un peu plus complexe que ça. Et ensuite, la valeur des joueurs, n'oublions pas qu'il faut toujours prendre le nombre d'années de contrat. Et donc ça ne veut pas dire grand chose qu'un joueur qui veut sur 60 millions et qu'il a 4 années de contrat et que c'est un gros joueur, les 60 millions sont forcément faux. Et il y a énormément d'erreurs, de décalage entre le véritable, lorsqu'il n'y a pas de clause évidemment, entre la valeur sur le marché et ce qui se passe en ce moment. Par contre, ils ne sont pas complètement crétins. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu la pandémie, ils ont bien compris que le marché allait s'écrouler des transferts et donc ils ont fait une dévalorisation de l'ensemble des marchés européens, c'est-à-dire la Première Ligue, etc., des joueurs. Ce que je reproche à Transfermarkt, c'est surtout comment bosser pour eux. Parce que vous parlez des forums et tout ça, mais vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup d'agents qui appellent pour donner des informations, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de choses. Par contre, ce que je reproche, c'est que vous avez parlé des forums. Et en fait, pour bosser chez Transfermarkt, faut mieux, en gros, tu vas bosser 2-3 ans gratuitement parce que tu es sur un forum exactement. Et quand tu vas commencer à avoir un contrat, c'est parce que tu as prouvé que tu faisais bien partie de la communauté, etc. Moi, j'appelle ça de l'exploitation. Mais moi, j'appelle ça de l'exploitation.
Excuse-moi, Paul, pour te couper, en effet, le manager France aujourd'hui, l'AREA Manager France, il s'appelle Ronan Karoff. Et en effet, c'est un ancien utilisateur des forums.
Exactement.
Gros utilisateur. Et même le DG Thomas Lins, à qui on a parlé très longtemps, il avait posté plus de 70 000 messages sur les forums avant d'être engagé.
Alors Thomas, c'est l'un des assistants de Seidel et il s'occupe notamment de l'Autriche et c'est avec eux que je discutais à l'époque. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que Transfermarkt est très critiqué en Allemagne, par exemple pour Elfreund 2, parce que ça devient quelque part une forme de foot business où on ne valorise pas comment les entraîneurs bossent, etc. Et donc Elfreund 2 ne peut pas les supporter en disant mais si vous voulez juste voir ce que c'est que le football de demain, c'est ça, voilà, c'est Transfermarkt et c'est pas eux. Et n'oublions pas une chose importante, c'est que dans le capital de Transfermarkt est arrivé un certain Axel Springer, propriétaire évidemment des médias et de Bild. C'est-à-dire qu'on se sert de tout ça pour faire monter la sauce au sein des médias. Alors oui, c'est gratuit, mais derrière, attention, on utilise la base de données évidemment pour que Bild fasse ses petits calculs.
Comme le disait l'émission d'RMC de l'époque, on nous la fait pas.
Voilà, non, mais c'est vrai.
Axel Schenker a pris 51% en 2008, ouais.
C'est ça, ouais. Et donc, c'est très intéressant parce que moi, je leur reconnais une chose qui est assez extraordinaire, c'est cette fameuse base de données qui n'est jamais finie d'ailleurs parce qu'elle est toujours en construction. Quand il y a énormément d'erreurs dès que vous montez dans les années 50, 60, 70, où vous allez voir, il y a énormément de choses qui sont pas vraies ou des joueurs qui étaient plus là et qui étaient déjà partis alors qu'on dit qu'ils étaient encore là, etc. Mais globalement, ça te donne une base de données extraordinaire. L'utilisation pour savoir comment on devient employé de chez Transfermarkt, moi déjà je mets un gros point d'interrogation, et ensuite c'est est-ce que le foot se résume à une valorisation qui, comme vous l'avez très bien dit, est très théorique et ne prend pas en compte différentes choses.
Bien sûr.
Et puis ensuite il y a des valorisations qui me font rigoler, quand tu vois qu'il y a des clubs de première ligue, des joueurs qui ont presque jamais sélectionné dans des grosses nations et tout ça, qui ont des valorisations plus grosses que celles de la Bundesliga, parce que chez Transfermarkt, on estime évidemment que la première ligue doit être plus valorisée que la Bundesliga, la Serie A ou la Ligue espagnole.
C'est un des dossiers qui t'a le plus gêné, ça.
Ça c'est normal quand même, Polo.
Non, mais il y a parfois il y a deux trois, c'est multiplié par deux à trois par rapport à un mec qui est juste en train de jouer dans une équipe de deuxième partie de tableau de la première ligue par rapport à des mecs qui sont tout en haut de la
Bundesliga. C'est vrai que les joueurs anglais valent plus cher que les mecs de Bundesliga, c'est juste une réalité.
Mais c'est par rapport au marché.
Oui, bien sûr, mais il n'empêche.
Mais la valeur du joueur.
La valeur du joueur, c'est à combien tu vas l'acheter. Donc, si c'est plus cher dans tel championnat.
Dans le papier d'Alex, il y a plein d'anecdotes. Alors, Cristiano Ronaldo, notamment, tu racontes ça?
Elle est incroyable, celle-là. C'est raconté par Thomas Lynn. C'est Cristiano Ronaldo en 2019. On lui baisse sa valeur parce qu'il commence à vieillir. Et puis voilà, sa valeur baisse, quoi. Normal, logique. Sauf qu'il le prend très, très mal. Il voit ça sur Instagram et il envoie un message privé au compte Transfermarkt d'Instagram. Les gars, pourquoi j'ai baissé? Pourquoi ma valeur a baissé? Je comprends pas.
Le mec qui appelle FUT pour dire, ma note, je suis pas si lent que ça.
Exactement. Et donc, les mecs de Transfermarkt lui répondent, désolé, on t'explique, tu vieillis, t'es machin. Ils lui disent, compare aux autres joueurs de ton âge, tu vas voir que t'es nettement au-dessus, donc on considère encore que t'es quand même un des meilleurs joueurs de la planète. Il dit ok, je respecte ce que vous me dites, mais moi je vous unfollow. Et il les unfollow sur Instagram. Vexé Cristiano Ronaldo d'avoir.
Et alors t'as aussi les mecs qui ont proposé des histoires. Vous racontez aussi que t'as les gars qui ont proposé des pots de vin.
Oui, tout à fait.
Pour augmenter leur valeur.
Exactement. C'est assez régulier. Ils nous racontent souvent que c'est plus les petits joueurs que les gros joueurs.
Comment vérifier que ça arrive pas et qu'un mec peut pas se faire acheter par une grosse
Daniel,
somme.
Daniel, non, là, je suis pas d'accord parce que j'avais dit à Gilbert de pas raconter cette histoire-là.
Oui, c'est vite 450 000, on sait bien comment tu les as eus.
À la base, ils voulaient mettre 2 millions.
Mais ça, il peut y avoir effectivement, il y a plein de pistes de corruption.
Oui, bien entendu. Eux disent, bien sûr, au micro, ils me disent non, on fait rien, on n'accepte rien. Ils disent aussi ça arrive très souvent, mais c'est plutôt les petits joueurs que les gros joueurs. Par contre, on a trouvé des papiers où notamment le responsable des Pays-Bas Belgique dit on m'a proposé des dîners, on m'a proposé des montres, on m'a proposé des choses, et il dit je les ai refusées, mais on ne peut pas vérifier. Impossible de vérifier, Daniel, en effet.
Il ne voulait pas.
Vous avez retracé l'histoire d'un joueur qui était surcoté sur Transfermarkt et où il est pris dans un club, et là on dit mais attendez, on lui a dit qu'il valait tant, en fait il est nul.
Non, on n'a pas eu ça exactement, mais on a vu des choses.
Ça doit exister, ça.
Ça doit exister, mais on a vu des choses notamment sur Marshall Mounetsi de Reims, exactement, et qui venait d'un club sud-africain. Et en fait, il était sur Transfermarkt à 200 000 euros. Et un des gens qui bosse pour ce club sud-africain nous dit en fait les clubs venaient, nous on proposait plus, on voulait le vendre plus, et les clubs arrivaient, ils lui disaient non, mais nous c'est 200 000 euros sur Transfermarkt. Pourquoi vous essayez de nous reprocher à le payer plus? Donc ça devient un jeu entre les agents et les clubs. Tout le monde rentre dedans. Il y a une super phrase, je la cite parce que j'adore cette phrase, c'est l'intro de notre papier de Frédéric Rissen, qui est un agent franco-uruguayen, qui dit c'est devenu le sextoy du foot. Tout le monde s'en sert, mais tout le monde en a honte. Personne ne le dit.
Pas mal. Donc avant, on disait il l'a trouvé dans une poussette surprise, ce joueur. Maintenant, on peut dire il l'a trouvé sur Transfermarkt.
Ouais. Non, mais après
quand même.
Moi, je pense que les clubs ne devraient pas utiliser ça pour. Voilà, c'est vraiment un indicateur. On parlait des statistiques, c'est un indicateur parmi tant d'autres, mais en effet, ça ne doit jamais être la valeur étalon, c'est comme ça qu'on dit? Ou étalonne. Mais pour avoir quand même souvent regardé, quand je commentais notamment le football hollandais, je connaissais pas forcément tous les joueurs, donc tu peux regarder, surtout que les Pays-Bas recrutent dans plein de pays où c'est impossible de connaître le mec. Et franchement, quand même, Transfermarkt, ça reste quelque chose, encore une fois, c'est pas la Bible du foot, mais il y a quand même des informations qui sont très intéressantes.
Et là, c'est important de dire que tous les gens du site nous ont répété vraiment plusieurs fois que justement ça, c'est pas indicatif d'une valeur de transfert, c'est une valeur sur le marché, et ils insistent sur dire il faut pas qu'on utilise nos chiffres pour les transferts parce que c'est pas réel tout simplement.
Et de toute façon, quelqu'un qui passe de Brême à Hambourg, c'est louche. Donc
Merci, merci Polo, merci.
Merci à vous les gars.
Merci
les gars.
Vous retrouvez l'enquête complète sur rmcsport.fr. N'hésitez pas à y aller. Je crois que ça a été édité hier ou avant-hier.
Tout à fait. Il y a deux jours.
Donc faut remonter un peu le fil pour trouver le.
Ça se trouve vers le bas du site.
Au milieu du site.
Oui, tu tapes Transfermarkt, ça va remonter là.
Juste une petite info avant de passer à Julien Cazard et Oussem. Une règle au Brésil assez étonnante ce soir, on l'apprend. La Confédération brésilienne de foot, donc la Fédé, a décidé en fait de limiter les changements d'entraîneur sur une saison. Nouveau ça.
Très bien.
Ils disent désormais, on pourra changer une fois.
Voilà. C'est quand même super rare de changer de plus une fois d'entraîneur dans une saison.
Bah, va voir au Portugal, tu vas voir.
Voilà. On pourra limoger qu'un entraîneur par saison. Un deuxième changement ne sera possible qu'en interne, à condition que le nouveau soit déjà employé du club depuis au moins 6 mois.
Ça, c'est bien pour les directeurs de formation.
Franchement, l'UNECATEF brésilien, ils sont plus forts que les Français.
Moi, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus, ça me semble pas.
Je te promets, Daniel, que c'est bien.
Obtenir ça.
C'est bien parce que, alors, le Brésil, moi, je connais un peu moins, mais je te jure, je te parle du Portugal, c'est ridicule. Ouais, ridicule.
Ils peuvent et en Italie, quand ils virent un mec, ils le rappellent 4 mois plus tard.
Oui, bon, en France.
Rappelle-toi,
à Monaco.
Oui, c'est pas faux. Merci Alexandre.
Merci les gars.
Bonne soirée dans quelques instants. Julien Cazard et Oussem Moussaïef, donc dans l'after pour conclure en beauté. À tout de suite.